Nécroscope de Brian Lumley. 20 minutes avant le coucher du soleil, Dragozani était de retour au lieu secret. Le cochonnet avait repris connaissance mais n'avait pas encore la force de se lever. Sans perdre de temps, ne voulant pas être dérangé, Dragozani assomma l'animal qui se débattait d'un seul coup de matraque, laquelle lui avait été fournie par le KGB. Puis il s'assit et attendit, fuma une cigarette et regarda la lumière décliner tandis que le soleil baissait de plus en plus. Ici, où les pins poussaient aussi droit que des lances et formaient un cercle autour de la tombe très ancienne, la seule véritable lumière provenait directement d'en haut, et elle était filtrée par un écran de branches entrelacées. Et tandis que la nuit approchait, les premières étoiles commencèrent à apparaître. Dragozani les distinguait avec un peu d'avance, comme le ferait un homme depuis un puits profond. Finalement, alors qu'il écrasait sa cigarette sous son talon et que l'obscurité se refermait encore plus étroitement sur lui, il entendit.
Dragozani.
Les présences invisibles étaient là, comme toujours, surgissant de nulle part. Des spectres dont les doigts effleuraient le visage de Dragozani, comme s'ils essayaient de le reconnaître, de s'assurer de son identité. Il frissonna.
Oui, c'est moi. Et j'ai apporté quelque chose pour vous, un présent.
Oh, un présent? Et que veux-tu de moi, Dragozani?
Dragozani était impatient à présent et ne fit aucun effort pour le cacher.
Le présent que je vous ai apporté est un petit tribut. Vous l'aurez plus tard, avant que je parte. Mais pour le moment, je vous ai parlé en ce lieu de nombreuses fois, vieux dragon. Et vous ne m'avez toujours pas révélé quoi que ce soit. Je ne dis pas que vous m'avez trompé ou fourvoyé, simplement que vous m'avez appris très peu de choses. Après tout, c'est peut-être de ma faute. Je n'ai peut-être pas posé les bonnes questions, mais en tout cas, je veux que la situation soit bien claire. Vous connaissez des choses que je désire connaître. Il y a eu un temps où vous aviez des pouvoirs. Je soupçonne que vous en avez conservé un grand nombre, dont j'ignore tout.
Des pouvoirs. Oh oui, de nombreux pouvoirs. De grands pouvoirs.
Je veux le secret de ces pouvoirs. Je veux les posséder. Tout ce que vous avez su et savez encore, je veux l'apprendre.
En somme, tu désires être un vampire.
En entendant ce mot, et la façon dont il avait été prononcé dans son esprit, Dragozani ne put réprimer un frisson. Même lui, Dragozani, le nécromancien, l'examinateur des morts, ressentait une terreur inconnue, comme si le mot lui-même transmettait en partie la nature effroyable de l'être ou des êtres qu'il nommait.
Vampire. Ici en Roumanie, il y a toujours eu des légendes à ce sujet, et au cours de ces 100 dernières années, elles se sont répandues à l'étranger. Personnellement, je sais depuis très longtemps ce que vous êtes, vieux démon. Ici, on vous appelle vampire, et dans le monde occidental, vampire. Là-bas, vous êtes une créature dans des contes que l'on raconte le soir au coin du feu. Des histoires pour faire peur aux enfants avant qu'ils s'endorment, et ainsi stimuler leur imagination morbide. Mais aujourd'hui, je veux savoir ce que vous êtes réellement. Je veux séparer les faits de la fiction. Je veux extirper les mensonges de la légende.
Il perçut un haussement d'épaule mentale.
Alors, je te le répète, tu dois devenir un vampire. C'est la seule façon de tout connaître.
Mais vous avez une histoire. Vous reposez ici depuis 500 ans, je sais cela. Mais qu'en est-il des 500 ans qui ont précédé votre mort?
Précédé ma mort? Mais je ne suis pas mort. Ils auraient pu m'assassiner, oui. Car il était en leur pouvoir de le faire. Mais ils en ont décidé autrement. Le châtiment qu'ils ont choisi était infiniment plus terrible. Ils m'ont simplement enterré ici. Mort vivant. Mais laissons cela de côté. Tu veux connaître mon histoire?
Oui.
C'est une longue histoire, sanglante de surcroît. Cela va prendre du temps.
Nous avons le temps. Largement le temps.
Néanmoins, il perçut une agitation, une frustration chez les présences invisibles. C'était comme si quelqu'un le prévenait de ne pas pousser davantage. Subir une pression, quelle qu'elle soit, n'était pas dans la nature de la chose morte-vivante.
mais finalement... Je peux te raconter une partie de mon histoire, oui. Je peux te dire ce que j'ai fait, mais pas comment cela a été fait. Pas en termes explicites. Connaître mes origines, mes racines, ne t'aidera pas à faire partie des vampiries, ni même à les comprendre. Je ne peux pas davantage t'expliquer comment être un vampire. Pas plus qu'un poisson ne pourrait expliquer comment être un poisson, ou un oiseau, Tu essayais d'être un poisson, tu te noierais. Si tu te jetais du haut d'une falaise comme un oiseau, tu tomberais et tu t'écraserais au sol. Et si les voix de créatures aussi simples que celles-là sont inaccessibles, alors que dire des voix des vampiries?
Je ne peux rien apprendre de ces voix, alors. Rien de vos pouvoirs. Je ne vous crois pas. Vous m'avez montré comment parler aux morts, alors pourquoi ne pouvez-vous pas me montrer le reste?
Ah non, tu te trompes, Dragozani. Je t'ai montré comment être un nécromancien, ce qui est un don humain. C'est en grande partie un art oublié parmi les hommes, bien sûr, mais la nécromancie est un art, néanmoins aussi vieux que la race humaine. Quant à parler véritablement aux morts, c'est quelque chose de totalement différent. Très peu d'hommes maîtrisent cette aptitude.
Mais je vous parle.
Non, mon fils. C'est moi qui te parle, parce que tu es l'un des miens. Et rappelle-toi, je ne suis pas mort. Je suis un mort vivant. Même moi, je ne pourrais pas parler aux morts. Les examiner, oui, mais leur parler, jamais. La différence réside dans l'approche, dans leur acceptation de quelqu'un et dans leur consentement à converser avec ce quelqu'un. Dans le cas de la nécromancie, le cadavre n'est pas consentant. Le nécromancien lui extorque des informations comme un bourreau, comme un dentiste arrachant de bonnes dents.
Arrêtez. Vous obscurcissez délibérément le problème.
Je réponds à tes questions de mon mieux.
Très bien. Alors, ne me dites pas comment être un vampire, mais dites-moi ce qu'est un vampire. Racontez-moi votre histoire, racontez-moi ce que vous avez fait durant votre vie, sinon la manière dont vous l'avez fait. Parlez-moi de vos origines.
Comme tu voudras. Mais d'abord, dis-moi. Dis-moi ce que tu sais, ou crois savoir, sur les vampires. Parle-moi de ces mythes, de ces contes de bonnes femmes que tu as entendus, un domaine que tu sembles connaître parfaitement. Ensuite, comme tu l'as dit, nous séparerons les mensonges de la légende.
Dragozani soupira, s'adossa à une dalle et alluma une autre cigarette. Il continua à avoir l'impression qu'on le faisait tourner en rond, mais apparemment il ne pouvait guère y remédier. Il faisait nuit à présent, mais ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité. De toute façon, il connaissait chaque racine noueuse et chaque dalle brisée. À ses pieds, le cochonnet poussait des grognements de temps en temps, puis se calmait.
Nous allons procéder pas à pas. Très bien. Commençons par ceci. Un vampire est une créature des ténèbres, un loyal sujet de Satan.
Shaitan a été le premier de tous les vampiries, dans nos propres légendes. Les créatures des ténèbres, oui, car la nuit est notre élément, nous sommes différents. Mais il y a un proverbe. La nuit, tous les chats sont gris. Ainsi donc, la nuit, nos différences ne sont pas si grandes, ou ne semblent pas l'être. Et avant que tu le demandes, laisse-moi te dire ceci. Du fait de notre penchant pour les ténèbres, le soleil est nocif pour nous.
Nocif? Il vous détruirait? Vous réduirez en poussière?
Hein? Non, c'est un mythe. Rien de si terrible. Toutefois, même un rayon de soleil ténu peut nous rendre malades, de la même façon qu'une lumière naturelle trop forte vous rend malade.
Vous redoutez la croix? Le symbole du christianisme?
Je hais la croix, nuance. Pour moi, elle est le symbole de tous les mensonges, de la perfidie. Mais la redouter, non.
Êtes-vous en train de me dire que si on brandissait une croix devant vous, crucifix sacré, cela ne brûlerait pas votre chair?
Ma chair pourrait brûler de dégoût en l'espace d'un instant, avant que je tue celui qui brandirait cette croix.
Vous ne me tromperiez pas, n'est-ce pas?
Tu mets ma patience à rude épreuve, Dragozani.
Vous n'avez pas de reflet, ni dans un miroir, ni dans l'eau. De la même façon, vous n'avez pas d'ombre.
Ah, une simple conception erronée, mais non dénuée de fondement. Le reflet que je projette n'est pas toujours le même, et mon ombre ne correspond pas toujours à ma forme.
Vous voulez dire que vous êtes fluide, que vous n'êtes pas solide ? Vous pouvez changer de forme ?
Je n'ai pas dit cela.
Alors expliquez-vous.
Tu ne veux donc pas laisser un peu de mystère, Dragozani ? Non, je suis sûr que non.
Je crois que cela pourrait répondre à deux questions en même temps. Votre aptitude à vous changer en chauve-souris ou en loup, par exemple. Cela fait également partie de la légende. Si c'est une légende, alors êtes-vous, oui ou non, un changeur de forme ?
Non. Mais je pourrais donner l'impression d'être une créature de ce genre. En fait, un changeur de forme, cela n'existe pas. Je n'en ai jamais rencontré. Très bien. Je vais te le dire. Que sais-tu du pouvoir de l'hypnotisme ?
L'hypnotisme ? L'hypnotisme ? L'hypnotisme de masse ? Voilà comment vous procédez.
Bien sûr. Cela peut tromper l'esprit, mais cela ne peut pas tromper un miroir. Et même si je peux avoir l'apparence d'une chauve-souris qui volette ou d'un loup qui bondit, mon ombre est néanmoins celle d'un homme. Ah, la mystique s'effondre. Hein, Dragozani ?
Vous ne pouvez pas traverser une eau vive. Vous pourriez vous y noyer.
J'ai peut-être une autre réponse à cela. De mon vivant, j'étais un mercenaire voïvode. Et c'est exact, je ne traversais pas d'eau vive. C'était ma stratégie. Quand l'envahisseur était en vue, j'attendais et le laissais traverser. Et je le massacrais dès qu'il arrivait sur la rive de mon côté. Peut-être est-ce là l'origine de cette légende. Sur les rives de la Dunarea, de la Morule et de la Sirétoule, j'ai vu ces rivières devenir rouges de sang, Dragozani.
Vous buvez le sang des vivants. C'est un désir ardent en vous qui vous pousse à le faire. Sans ce sang, vous mourrez. Votre nature totalement maléfique exige que vous vous nourrissiez de la vie des autres. Le sang est la vie.
Ridicule. Quant au mal, c'est un état d'esprit. Si tu acceptes le mal, tu dois accepter le bien. Il se peut que je ne sois pas très au courant de ton monde, Dragozani, mais dans le bien se faisait plutôt rare. Quant au fait de boire du sang, manges-tu de la viande ? Bois-tu du vin ? Naturellement. Tu dévores la chair des animaux et tu bois le sang de la vigne. Est-ce mal ? Montre-moi une créature vivante qui ne dévore pas de vie inférieure. Cette légende provient de mes actes de cruauté, je le reconnais, et de tout le sang que j'ai répandu de mon vivant. Quant à savoir pourquoi j'étais si cruel, il m'a semblé que si mes ennemis croyaient que j'étais un monstre, ils hésiteraient à m'affronter. Alors j'ai agi comme un monstre. Et si ma légende a persisté si longtemps et continue à engendrer une telle terreur, qui peut dire que j'avais tort ?
Cela ne répond pas à ma question.
Et moi, je suis fatigué. Sais-tu ce que cela me coûte, ce genre d'inquisition ? Bon, peut-être que je suis l'un de tes cadavres, Dragozani. Un bon sujet pour un examen de nécromancie.
Une dernière question.
Très bien. Si tu le dois.
Selon la légende, la morsure du vampire change à leur tour les hommes ordinaires en vampires. Si vous buviez mon sang, être ancien, est-ce que je deviendrais comme vous ? Un mort-vivant.
Un long silence s'ensuivit, durant lequel Dragozani perçut un certain désarroi, un effort mental pour trouver une réponse. Finalement, le démon dans le sol répondit.
Il fut un temps, quand le monde était jeune, où les forêts étaient peuplées de grandes chauves-souris et de toutes sortes de créatures. Une maladie détruisit la plupart d'entre elles. Une maladie particulièrement horrible. Mais certaines apprirent à vivre avec. À mon époque, il existait une espèce qui buvait le sang d'autres animaux, et également celui des hommes. Les chauves-souris étaient porteuses de la maladie, aussi la transmettaient-elles à ceux qu'elles mordaient. Et les victimes infectées semblaient présenter certaines caractéristiques qui...
Arrêtez ! Vous parlez de la chauve-souris vampire qui existe aujourd'hui en Amérique centrale. En Amérique du Sud, cette maladie est la rage. Et je ne vois pas le rapport.
L'Amérique.
Un nouveau pays. On ne l'avait pas encore découvert à votre époque. C'est un pays immense, riche et très très puissant.
Ah, si tu le dis, bien. Tu devras me décrire ce nouveau monde plus en détail, mais une autre fois. Car maintenant, je suis fatigué.
Pas si vite. Êtes-vous en train de dire que je ne deviendrai pas un vampire si vous me mordiez ? Essayez-vous de me faire croire que la légende est sans fondement ? Excepté ce prétendu rapport avec les chauves-souris vampires. Ça ne marche pas, vieux démon. Car c'est votre nom que l'on a donné à la chauve-souris et non l'inverse. Vous m'avez demandé si je désirais faire partie des vampiries. Et comment pourriez-vous faire de moi un vampire sinon de cette manière ? Pourrais-je être investi vampire alors ? Comme vous avez été jadis dans l'ordre du dragon ? Ah, plus de mensonges, vieux démon, je veux uniquement la vérité. Et si vous êtes réellement mon père, pourquoi cherchez-vous à me la cacher ? De quoi avez-vous peur ?
Tu m'avais promis un présent, un petit tribut, et tu ne m'as apporté que lassitude et tourment. Je suis une étincelle qui s'éteint, mon fils, une braise qui meurt. Tu as maintenu en vie la flamme vacillante, et tu voudrais maintenant l'éteindre. Laisse-moi dormir à présent, si tu ne veux pas m'épuiser complètement.
Le jeune homme serra les dents, émit un grognement rauque de frustration, et saisit le cochonnet par les pattes de derrière. Il se leva d'un bond, sortit un couteau à cran d'arrêt et le déplia d'un coup. La lame brilla, acérée comme un rasoir. Le cochonnet se débattit et couina une fois. Ragozani lui trancha la gorge et laissa le sang écarlate gicler puis imbiber la terre sombre. Un vent se leva immédiatement et soupira dans les pins. Son souffle ressemblait à la voix de la chose dans le sol. Ragozani lança le cadavre du cochonnet vers les petites racines enchevêtrées, recula, prit son mouchoir et s'essuya les mains. Les présences invisibles s'avancèrent furtivement.
Arrière ! Arrière, fantôme d'homme ! C'est pour lui, pas pour vous.
Descendant entre les pins dans une obscurité totale, Ragozani était aussi agile qu'un chat. À sa façon, lui aussi, il était une créature de la nuit, mais une créature vivante. En pensant à la vie, à la mort, à la non-mort, il eut un sourire dépourvu d'émotion et regarda vers l'obscurité, tout en repensant à la seule question qu'il n'avait pas posée. Comment pouvait-on tuer un vampire ? Réellement ? Définitivement ? Non, il n'avait pas posé cette question-là, à la chose dans le sol, pas dans un lieu comme celui-ci, à une heure où dominait l'obscurité. Car qui pouvait prévoir quelle serait sa réaction, si réaction il y avait ? Ce pouvait être une chose très dangereuse, et de toute façon, Ragozani croyait déjà connaître la réponse. Le jour suivant était un jeudi. Ragozani avait passé une mauvaise nuit, c'était à peine s'il avait dormi. Et il se leva de bonne heure. Il regarda par la fenêtre et aperçut Hills et Kinkowski qui donnaient à manger aux poulets. Ceux-ci étaient sortis de la cour de la ferme et allaient et venaient sur l'herbe au bord de la route de campagne. Du coin de l'œil, elle vit bouger à la fenêtre et leva la tête vers lui. Ragozani avait ouvert la fenêtre en grand et respirait l'air du matin à plein poumon. Appuyé sur le rebord, penché vers la lumière, sa peau était aussi pâle que de la neige. Hills regarda son torse nu. Quand il respirait à fond, les muscles de son torse qui se prolongeaient pour former un V dans son dos semblaient se gonfler comme des sacs aériens. Il cachait bien son jeu, celui-là. Elle soupçonnait qu'il était probablement très vigoureux. Elle le salua. Il lui fit un petit signe de la tête en guise de réponse. Et comme il la regardait, il sut pourquoi il avait mal dormi. Elle en était la raison.
« C'est agréable ?»
demanda-t-elle, passant délibérément sa langue sur ses dents blanches.
« Quoi ?»
Il était sur la défensive de nouveau, et se maudit aussitôt d'être si immature. Lui, Ragozani.
« L'air sur votre peau, est-ce que c'est agréable ? Regardez-vous, vous êtes si pâle, un peu de soleil vous ferait certainement le plus grand bien, air Ragozani. »«
Oui, vous devez avoir raison. »
Il s'écarta de la fenêtre pour s'habiller. Tandis qu'il enfilait ses vêtements avec colère, il pensa « Femme, femelle, sexe, est-ce donc si répugnant, si contre nature et si nécessaire ? Est-ce que c'est ça dont je manque ?» Il y avait un moyen de le savoir. Cette nuit. Ce devait être cette nuit, car les Anglais arrivaient demain. Il prit une décision et revint à la fenêtre. Ils avaient recommencé à donner à manger à ses poulets.
Elle l'entendit tousser et leva les yeux. Il boutonnait sa chemise tout en la regardant. Durant un long moment, leurs regards se croisèrent, puis avec hésitation, il dit
« Ilse, est-ce qu'il fait encore frais ? La nuit, je veux dire. »
« Froid ?
Oh non, c'est l'été. Alors, cette nuit, je crois que je vais laisser ma fenêtre ouverte et mes rideaux ouverts. »
Elle se dérida. Elle inclina la tête en arrière et éclata de rire.
« C'est très sain. Je suis sûr que vous vous sentirez mieux. »
Embarrassé à présent, Dragozani s'écarta de nouveau de la fenêtre, la ferma et finit de s'habiller. Durant un moment ou deux, il regretta ce qu'il venait de faire. Ce rendez-vous si facilement arrangé qui, en fait, semblait avoir été arrangé à sa place. Mais il chassa finalement cette impression. C'était fait à présent. Ce qui devait arriver, arriverait. Et puis, de toute façon, il était temps qu'il perde sa virginité.
Perdre sa virginité, vraiment. Cela le faisait ressembler à une jeune fille. Et pourtant, il y avait une naïveté touchante dans cette phrase. Contrairement à l'assertion brutale de son mentor mort-vivant, quelles avaient été les paroles du vieux démon dans le sol cette fois-là ?
Un jeune freluquet qui n'a jamais sauté une pute.
Oui, c'était ça. Et il parlait du père de Dragozani, de son véritable père. Il était entré dans son esprit pour lui montrer comment faire. Dragozani sursauta lorsqu'un petit caillou tinta contre la vitre. Il était assis sur son lit, perdu dans ses pensées. Il se leva et rouvrit la fenêtre. C'était Ilse.
Petit déjeuner dans votre chambre, Herr Dragozani. Ou est-ce que vous voulez manger avec nous ?
On ne pouvait se méprendre sur la façon dont elle avait appuyé sur « dans votre chambre ». Mais Dragozani l'ignora. Non, il devait d'abord parler au vieux dragon.
Je vais descendre.
Il plissa les yeux d'un air pensif en voyant la déception qui était immédiatement apparue sur le visage d'Ilse. Oh oui, il avait besoin d'aide pour cette fois, sa première fois. Ilse devait savoir exactement quoi faire, et lui ne savait rien. Mais le vampire connaissait tout de ces choses, et Dragozani soupçonnait qu'il y avait certains secrets que même ce vieux démon Rotor était disposé à divulguer. Oui, il en était même certain. Le problème sexuel de Dragozani, ou plutôt le blocage, qui avait jusqu'à maintenant empêché son psychisme de se développer dans ce domaine, était apparu à la puberté. Alors que les autres garçons commençaient à voler leurs premiers baisers et à explorer le corps doux des filles avec des doigts chauds, maladroits et inexpérimentés. L'incident s'était produit au cours de sa troisième année à Bucarest, alors qu'il était pensionnaire dans un collège. Il avait 13 ans et attendait impatiemment les vacances d'été. Puis la lettre de son père adoptif était arrivée, lui disant de ne pas venir. Une épidémie s'était déclarée à la ferme. Les bêtes avaient dû être abattues, les visiteurs étaient interdits et même Boris ne serait pas autorisé à rentrer. La fièvre était virulente, des gens pouvaient facilement la propager via leurs chaussures par exemple. Toute la région, dans un rayon de 30 km, avait été mise en quarantaine. Un désastre apparemment. Mais ce n'était pas nécessairement un pour Boris. Il avait une tante à Bucarest, la sœur cadette de son père adoptif, et pourrait séjourner chez elle pendant les vacances. C'était mieux que rien. Au moins, il aurait quelque part où aller et ne serait pas obligé de rester dans une annexe du vieux collège à préparer lui-même ses repas sur un petit réchaud. Sa tante Hildegarde était une jeune femme et avait deux filles qui n'avaient qu'un an de plus que Boris, Anna et Katrina. Toutes trois habitaient une vaste maison en bois plein de coins et de recoins sur la route de Boudesti. Chose étrange, on parlait rarement d'elle à la maison, et Boris les avait rencontrés seulement à l'occasion de leur venue peu fréquente dans la campagne roumaine. Il avait toujours trouvé que sa tante était très affectueuse. Peut-être l'était-elle trop, et que ses cousines semblaient un peu souffreteuses et qu'elles avaient des petits rires idiots, comme en ont souvent les jeunes filles. Cela étant, elle présentait également les signes d'une sensualité espiègle très en avance sur leur âge, mais cela n'avait rien de sombrement équivoque ni de particulièrement bizarre. Pourtant, il avait eu l'impression, en voyant l'attitude de son père adoptif à leur égard, que sa tante était une sorte de brebis galeuse dans la famille, ou à tout le moins, une dame qui possédait un terrible secret. Au cours des 3 semaines qu'il passait avec elle et ses filles précoces, alors que le collège eut fermé pour les vacances d'été, Boris avait découvert tout ce qu'il estimait avoir besoin de savoir sur sa bizarrerie, le sexe et les manières perverses des femmes, et ses expériences l'avaient irrémédiablement dégoûté pour toutes les années qui avaient suivi. jusqu'à maintenant. Pour la bonne et simple raison que sa tante était une nymphomane. Récemment délivrée grâce à la mort de son mari, elle avait laissé ses obsessions sexuelles s'exprimer librement, et il en était de même apparemment pour ses filles. Même du temps où son mari, malade, était encore en vie, il était de notoriété publique qu'elle avait eu de nombreux amants. La rumeur de ces liaisons était arrivée jusqu'aux oreilles de son frère à la campagne, ce qui expliquait son attitude distante, sa désapprobation. Lui-même n'était pas prude, mais il estimait qu'elle ne valait guère mieux qu'une prostituée. Jusqu'où allait ses turpitudes, son frère ne pouvait le savoir, d'autant plus qu'il avait rompu quasiment tout contact avec elle. S'il avait su, il aurait pris d'autres dispositions, mais son fils adoptif n'était qu'un jeune garçon, après tout. À l'évidence, il serait à l'abri des vices de cette femme. Boris ne savait rien de cette affaire, mais allait très vite découvrir la vérité. Pour commencer, les portes intérieures de la maison de sa tante étaient dépourvues de serrures. Ni les chambres, ni la salle de bain n'avaient de serrures, pas même les toilettes. Tant il de garde avait expliqué qu'il n'y avait pas d'endroit secret ici. Aucun endroit où s'adonner à des actes secrets et que les choses secrètes, en règle générale, n'étaient pas tolérées. Boris avait donc d'autant plus de mal à comprendre les regards entendus ou malicieux qu'échangeaient souvent sa tante et ses cousines en sa présence. L'intimité n'existait pas davantage. Elle était totalement inutile dans une maison où rien n'était interdit, où rien n'était reproché. Quand Boris avait posé des questions sur la philosophie de sa tante, il s'était entendu répondre que cette maison était une maison de la nature, où l'on apprenait que le corps humain et ses fonctions étaient des choses que la nature nous avait données pour explorer, découvrir, comprendre et jouir pleinement, sans tenir compte des restrictions conventionnelles. À condition de respecter la maison et les biens de son hôtesse, il était libre de faire absolument tout ce qu'il voulait. Mais, de la même façon, il devait respecter le comportement naturel des occupantes de la maison, dont les manières, ainsi qu'il le découvrirait, étaient entièrement libres et sans aucune retenue. Quant à la philosophie de sa tante, si tant est que l'on puisse la qualifier ainsi, elle se résumait à ceci. Il y avait trop peu d'amour dans le monde et beaucoup trop de haine. Si les désirs du corps et les feux de l'esprit pouvaient être assouvis, rassasiés dans l'agréable violence des étreintes, au lieu de se perdre dans la guerre, alors le monde serait certainement meilleur. Boris ne comprendrait peut-être pas tout de suite, mais sa tante était sûre qu'il y viendrait, dans peu de temps. Le premier soir, après avoir dîné de bonne heure, Boris était monté dans sa chambre pour lire. Il avait apporté quelques-uns de ses livres du collège, mais au bas de l'escalier menant à sa chambre, il y avait une petite pièce qui servait de bibliothèque à sa tante. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, Boris avait découvert des étagères remplies d'ouvrages érotiques et d'autres consacrés aux perversions et aux déviations sexuelles. Certains étaient si fascinants qu'il emporta dans sa chambre plusieurs de ses ouvrages illustrés. Ils ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait pu voir jusqu'alors, même à la bibliothèque du collège qui était pourtant très complète. Dans sa chambre, il s'intéressa tout particulièrement à l'un des ouvrages. Celui-ci était présenté comme factuel, mais ce qu'il contenait était si improbable pour l'esprit de Boris qu'il fut convaincu que c'était probablement une attrape, une œuvre de fiction remplie d'imagination, même si la manière dont certaines des prétendues photographies avaient été prises le dépassait complètement. Comme tout garçon de son âge, il fut bientôt excité. La masturbation ne lui était pas inconnue. Il se soulageait de temps en temps comme le font la plupart des jeunes gens. Mais ici, dans la maison de sa tante, il ne s'était pas senti suffisamment en sécurité, à l'abri des regards, pour le faire. Ainsi, afin d'éviter une plus grande frustration, il avait rapporté les livres dans la bibliothèque au rez-de-chaussée. Un peu plus tôt, alors qu'il lisait, il avait entendu une voiture s'arrêter devant la maison et un visiteur entrer, manifestement accueilli avec joie par la famille. Mais il n'y avait pas prêté attention. Comme il remettait les livres sur les étagères, cependant, il entendit les rires, les bruits d'une activité physique et d'un plaisir manifeste qui provenait de la salle de séjour principale. Une pièce qu'on lui avait montrée, et où il avait admiré les miroirs disposés un peu partout, y compris, curieusement, au plafond. Il eut envie d'aller voir ce qui se passait. La porte était légèrement entrebâillée, et tandis qu'il s'en approchait sans bruit, Boris entendit une voix masculine gutturale, tendue par quelque effort, ainsi que les voix à présent grossières et pressantes de sa tante et de ses cousines. Ce fut à ce moment-là qu'il commença à soupçonner que quelque chose sortant tout à fait de l'ordinaire était en train de se dérouler dans cette pièce. Boris s'arrêta devant la porte pour regarder par l'interstice et fut bouleversé, presque glacé, par ce qu'il vit. Loin d'être fantaisiste, ainsi qu'il l'avait supposé, le livre qu'il avait lu ne contenait rien de comparable à ceci. L'homme, un inconnu pour Boris, barbu au visage grêlé, au ventre énorme et poilu,
était d'un aspect tout à fait repoussant. Il avait presque un corps difforme. Il était également entièrement nu. Ce que Boris ne pouvait pas savoir, c'est que cet homme était un satyre, ce qui, selon les critères de cette maison, faisait plus que compenser sa laideur et ses difformités. Regardant à l'intérieur de la pièce grâce à un miroir placé juste de l'autre côté de la porte, donc indirectement, Boris ne pouvait pas voir toute la prestation, mais ce qu'il voyait était plus que suffisant. Les trois femmes se relayaient sur leur partenaire, l'encourageaient à de plus grands efforts, s'activaient sur lui avec leurs mains, leurs bouches et leur corps dans une frénésie de débauche sexuelle. Celui-ci était allongé sur un divan, tandis que la plus jeune des sœurs, Anna, était agenouillée à califourchon sur lui et faisait littéralement des bonds. Chaque fois que son corps se soulevait, il laissait apparaître presque toute la longueur et la grosseur du membre de l'homme luisant des sécrétions de leur corps vibrant. À chaque brève apparition de cette hampe de chair visqueuse, Boris apercevait la petite main presque fragile de Katrina qui la serrait fortement, tandis qu'Anna et l'homme continuaient à se heurter violemment. Et celle s'activait au-dessus avec la même ardeur que sa sœur et son corps bondissant. Quant à la mère des jeunes filles, tante Hildegarde, une femme de 34 ans environ, elle était agenouillée à la tête du divan et agitait ses seins volumineux au-dessus du visage fiévreux de l'homme, si bien que ses mamelons effleuraient sa bouche grande ouverte et haletante. De temps en temps, apparemment éperdue de plaisir, elle se penchait en avant et poussait sa région pubienne contre les lèvres frémissantes et la langue de son partenaire. Les femmes n'étaient pas nues, mais elles apparaissaient d'autant plus impudiques qu'elles portaient leurs vêtements. Des tuniques blanches, amples et flottantes, non boutonnées, ce qui permettait à l'homme de caresser leurs seins et leurs fesses et de toucher toutes les parties de leur corps à volonté. Ce qui stupéfiait le plus Boris, le figeait littéralement, ce n'était pas tant ce à quoi il assistait était un acte sexuel, dont il savait fort peu de choses au fond, mais que les quatre participants semblaient si totalement concernés, absorbés, chacun prenant plaisir non seulement dans la récompense de sa propre performance, quel que soit le rôle tenu, mais aussi dans les cabrioles des autres. Mais alors qu'il changeait de place et de position sous ses yeux et quasiment sans aucune pause, commençait une nouvelle série d'efforts compliqués. Cette fois, l'homme monta sa tente tel un affreux bâtard, tandis que les jeunes filles tenaient un rôle moins important. Boris avait commencé à comprendre. Personne n'était négligé ici. Chacun devenait l'agresseur à tour de rôle, pour que tous reçoivent un maximum de satisfaction. Ou, du point de vue de Boris en proie à la fièvre, pour que tout soit pareillement répugnant. Quoi qu'il en soit, alors qu'il pensait à présent comprendre en partie ce qu'il voyait, il avait encore du mal à croire qu'il était réellement en train d'assister à ce spectacle. C'était le personnage principal, l'homme, cette horrible machine jaillissante, qu'il ne parvenait pas à cerner. Boris se souvenait qu'il se sentait toujours épuisé après s'être masturbé. Alors comment cet animal, poilu, dans la pièce au miroir, devait-il se sentir ? Il semblait gicler du sperme presque continuellement et grogner sous l'intensité du plaisir que lui procurait chaque nouvelle giclée. Sauf que lui ne semblait pas du tout fatigué, mais au contraire prêt pour de plus grands excès. Assurément, il allait s'effondrer d'un instant à l'autre. Alors que, ayant finalement retrouvé l'usage de ses jambes, il s'écartait de la porte, Boris entendit sa tante dire en haletant
« Allons, allons, vous deux, n'épuisez pas Dimitri si vite. Si vous alliez jouer avec Boris, mais avec... moins d'ardeur, sinon vous pourriez l'effrayer. Pauvre petit, il est du genre à avoir peur très facilement. Il est aussi vigoureux qu'une laitue. »
Cela fut suffisant pour Boris. Il monta l'escalier à toute vitesse pour rejoindre sa chambre, se déshabilla en un clin d'œil et se coucha là. Là, il se blottit en frissonnant, sachant que sa porte n'était pas fermée à clé et qu'elle ne pouvait pas être fermée à clé. Il n'osait même pas essayer de deviner ce qui pouvait bien se passer. S'il avait été seul avec une de ses cousines, une jeune fille normale, les choses auraient peut-être été différentes. Il y aurait peut-être eu une initiation timide, progressive, maladroite, à l'acte sexuel normal. Boris aurait fait le premier pas avec hésitation. Mais jusqu'à cette nuit, les rêves et l'imagination de Boris dans ce domaine avaient été tout à fait ordinaires. Il avait même nourri le fantasme d'être seul avec sa tante. Il s'étouffait contre ses doux seins, son corps blanc. Et il n'avait pas trouvé cela particulièrement répugnant, ni honteux. Mais c'était avant. Maintenant, il avait vu. Toute l'innocence que ses fantasmes avaient pu contenir avait disparu à présent. Elle y avait été arrachée. Que pourrait être désormais un acte sexuel normal ? Une telle chose existait-elle ? Il l'avait vu, oui. Au rez-de-chaussée de cette maison, il avait vu trois femmes s'accoupler avec une bête à la vigueur apparemment inépuisable. Il avait vu la grande hampe de chair lubrique de la bête. Et lui faudrait-il se comparer avec ça ? En tant qu'homme, pouvait-il même simplement exister après ce spectacle ? Une brindille contre une branche ? Et devrait-il participer à des orgies de ce genre, tel un petit lièvre au milieu d'une meute de chiens ? La seule pensée d'être en contact avec la bête était répugnante. Il en était là dans ses pensées quand ses cousines vinrent le chercher. Emmitouflé dans ses draps et ses couvertures, il était complètement immobile et retenait son souffle. Il les avait entendues entrer, avait essayé de ne pas sursauter quand Anna avait émis un petit rire rauque et demandé s'il était réveillé.
Boris ! Boris ! Tu es vraiment sûr que tu dors ?
Faisant semblant de dormir, son cœur battait la chamade. Boris se tourna légèrement sur le côté et grogna. Ce fut une erreur. Toutes deux gloussaient à présent, leur voix toujours grossière et emplie de désir.
Boris, tu ne veux pas jouer à un jeu avec nous ? Au moins sors ta tête, nous avons quelque chose à te montrer.
Il ne pouvait plus respirer. Il avait ramené les draps si étroitement sur lui et les serrait si fort qu'il manquait d'air. Il allait être obligé de sortir la tête dans un moment, qu'il le veuille ou non.
Boris, si nous éteignons la lumière, tu sortiras ?
Un instant, un tout petit instant, juste une goulée d'air, le temps de remplir ses poumons. Oui, suffoqua-t-il. Puis il sentit Anna se lever et ôter son poids du lit, et il entendit le bruit sec de l'interrupteur. La lumière était éteinte, ainsi que Boris le découvrit un instant plus tard quand, se démenant pour dégager sa tête, il l'adressa vers l'obscurité et aspira l'air profondément dans ses poumons, asphyxié, à tel point qu'il faillit en avoir un haut le cœur. Aussitôt, tandis que d'autres gloussements envahissaient la chambre, la lumière se ralluma. L'une des jeunes filles, il n'aurait su dire laquelle, se trouvait près du lit, tenant son vêtement ample semblable à une tunique au-dessus de sa tête comme une tente. L'odeur de renfermé qu'exhalait son corps agressa Boris, et il vit le V sombre de sa région pubienne orné d'une rangée de perles laiteuses de sperme. La lumière passant à travers son vêtement était ténue, mais suffisante pour lui permettre de voir, quand elle plia légèrement les jambes, ce qui, pour lui, ressemblait à un sourire vertical avide.
« Voilà, nous t'avions bien dit que nous avions quelque chose à te montrer, non ?»
Mais ce fut tout ce qu'elle eut le temps de dire, car brusquement, saisi de panique et de dégoût, Boris se mit à distribuer des coups de poing. Par la suite, il n'avait gardé de cet épisode qu'un souvenir confus. Il se rappelait seulement les gloussements qui s'étaient changés en des cris perçants, et la douleur sourde dans ses poings et ses phalanges écorchées. Mais il se rappelait très bien que le lendemain, ses bourreaux l'avaient soigneusement évité, et que toutes deux arboraient des ecchymoses violacées. Anna avait une lèvre fendue, et Katrina un énorme œil au beurre noir. Sa tante avait eu peut-être raison de le comparer à une laitue, dans un sens. Et en ce qui concernait la ténacité et la férocité, Boris ne manquait ni de l'une, ni de l'autre. Le jour suivant avait été un véritable cauchemar. Épuisé après une nuit blanche, barricadé dans sa chambre et résistant à toutes les demandes de sa tante qui le priait de sortir, Boris avait eu à subir la colère de cette dernière, et à une distance prudente, les accusations de ses filles trop portées sur le sexe. Tantilde Garde ne lui apporta pas à manger en guise de punition, et menaça de se plaindre à son père s'il ne revenait pas à la raison immédiatement. Elle voulait dire par là qu'il devait sortir de sa chambre et lui parler, présenter des excuses aux jeunes filles, et d'une manière générale, se comporter comme si rien ne s'était passé. Il ne fit rien de tout cela et resta cloîtré dans sa chambre à l'exception de brefs et rapides passages aux toilettes et dans la salle de bain, bien décidé à s'enfuir de la maison à la tombée de la nuit pour retourner à Bucarest. Le seul ennui avec son plan, c'est que son père l'apprendrait inévitablement et voudrait savoir pourquoi il avait agi ainsi, ce à quoi Boris serait parfaitement incapable de répondre. Son père adoptif n'avait jamais été d'un abord facile et cela était tout bonnement incroyable. Même en supposant qu'il puisse le croire et qu'il accepte d'entendre tout ce qui s'était passé, est-ce que des doutes subsisteraient quant à la participation de Boris ? Peut-être penserait-il que son fils avait pris part à ces orgies de manière active, voire volontaire. De plus, il y avait d'autres difficultés. Boris n'avait pas d'argent et aucune disposition n'avait été prise pour lui au collège. C'est pourquoi, quand le soir arriva et que les menaces de sa tante se changèrent en supplications, il déplaça son lit et la table de toilette qu'il avait calée contre la porte et la laissa l'emmener au rez-de-chaussée. Elle était désolée, avait-elle déclaré, que les filles les taquinaient si méchamment la veille au soir et qu'il ait été si effrayé. Qu'avait-elle bien pu faire pour le bouleverser ainsi, pour qu'il ait réagi si violemment ? Cela dépassait son entendement. Mais quoi qu'il en soit, c'était terminé maintenant, et Boris devait essayer de tout oublier. Cela ne pouvait que causer des ennuis entre elle et son frère s'il l'apprenait, quoi qu'il ait pu se passer. Oh oui, car il l'accusait toujours de tous les maux. Boris avait acquiescé en silence. Cela causerait des ennuis sans aucun doute, et encore plus s'il était fait mention de la bête. Mais sa tante ne savait pas qu'il était au courant de cela, et il était préférable qu'elle continue à l'ignorer. Autrement, la mystification tout entière s'écroulerait. En tout cas, le satyre n'était plus dans la maison, et Boris espérait qu'il ne reviendrait pas. Tant il de garde lui donna à manger, et plus tard il l'entendit dire à Anna et Katrina de le laisser tranquille, qu'il n'était pas pour elle, et qu'il fallait gérer cette situation avec une grande délicatesse. Ainsi donc, tout semblait terminé, et Boris était ravi. Jusqu'à la nuit suivante. Épuisé, il dormait dans son lit placé contre la porte, son poids remplaçant celui de la table de toilette, mais cela n'avait pas été suffisant. Vers 3h du matin, sentant une sorte de mouvement irrégulier et intermittent, il se réveilla à moitié et entendit la voix de sa tante qui le calmait maladroitement et lui susurrait de se rendormir ou du moins d'essayer. Sa voix était pâteuse et sa respiration oppressée. Elle avait bu et elle était nue, comme il le découvrit en avançant sa main dans l'obscurité. Instantanément, il se réveilla, complètement, comprenant que cette femme insatiable essayait de se glisser dans son lit. Immédiatement, telle une main douce et apaisante sur son front brûlant, une colère glacée le submergea et chassa toute peur.
« Tant-il de garde ? Allumez la lumière, s'il vous plaît. »« Ah, mon cher garçon, tu es réveillé, tu veux me voir. Mais allons. » J'étais dans mon lit, Boris, et j'ai bien peur de ne pas avoir de vêtements sur moi. Ces nuits d'été sont si chaudes. Je me suis levé pour boire un verre d'eau et j'ai dû entrer dans ta chambre par erreur.
Tandis qu'elle finissait de parler, ses seins effleurèrent le visage de Boris. Grinçant des dents et se détournant d'elle de nouveau, Boris répéta.
Allumez la lumière. Mais c'est très coquin de ta part, Boris.
Elle fit semblant de protester en prenant une voix de petite fille. Néanmoins, elle trouva le commutateur. Momentanément éblouie, elle se tint là, entièrement nue, à l'endroit où elle avait repoussé le lit pour ouvrir la porte. Puis elle lui adressa un sourire légèrement ivre, ce qui eut pour effet de la faire paraître complètement stupide et répugnante. Et elle s'avança vers lui, les bras tendus. Elle vit alors qu'il était entièrement habillé, remarqua pour la première fois l'expression étrange sur son visage et porta vivement la main à sa bouche. Il avait sorti ses jambes du lit et glissé ses pieds dans ses chaussures.
« Ma tante, vous allez sortir de cette chambre immédiatement, s'il vous plaît, et ne plus y rentrer. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui partirai, et si la porte d'entrée est verrouillée, je briserai une fenêtre. Ensuite, dès que je le pourrai, je raconterai à mon père adoptif ce qui se passe exactement dans cette maison. »«
Ce qui se passe ?»
Elle se dégrisait rapidement. Elle essayait de lui prendre la main, l'air vaguement inquiet désormais.
« À propos des hommes qui viennent ici, pour vous baiser, vous et mes cousines, comme les gros taureaux qui montent sur les vaches de chez mon père adoptif. »«
Alors tu as vu ?»«
Sortez !» Boris la regarda d'un air méprisant, un air qu'il adopterait dorénavant dans ses relations avec les femmes. Puis il essaya de la pousser dehors. Ses yeux se réduisirent à des fentes, et elle lui cracha.
Alors c'est donc ça. Les grands garçons du collège t'ont eu les premiers, c'est ça? Tu les préfères aux filles, apparemment.
Dehors. Sinon je pars immédiatement. Et je raconterai tout, non seulement à mon père, mais aussi à tous les policiers que je rencontrerai entre ici et Bucarest.
Je leur parlerai de votre bibliothèque remplie de livres porno, ce qui à elle seule pourrait vous valoir la prison, et de vos filles qui, bien qu'encore adolescentes, sont déjà pires que des prostituées.
Des prostituées ?
Elles ne pourront jamais être aussi totalement corrompues que vous.
Elle s'était effondrée, en larmes, et elle l'avait laissé la pousser hors de la chambre sans protester. Le reste de la nuit, il l'avait passé à dormir, profondément, sans être dérangé. Cela avait été la fin de cette histoire. À midi le lendemain, alors que Boris prenait un repas solitaire en silence, son père adoptif était arrivé pour le ramener à la maison. Le problème avec les bêtes était réglé. Cela n'avait pas été si grave, tout compte fait. Dieu merci. Boris n'avait jamais été aussi content de voir quelqu'un de toute sa vie, et il fit de gros efforts pour ne pas trop le montrer. Tandis qu'il rassemblait ses affaires, Tantil de Garde passa une demi-heure apparemment cordiale, sinon circonspecte, avec son frère, lequel se fit un devoir de demander des nouvelles de ses nièces, aucune des deux n'étant présente. Puis, après de brefs adieux, Boris et son père adoptif la laissèrent pour prendre le chemin du retour. À la grille d'entrée, comme ils montaient dans la voiture, Tantil de Garde parvint à attirer le regard de Boris. Il vit dans son expression, juste une seconde avant qu'elle leur dise au revoir de la main, qu'elle l'implorait. Ses yeux le suppliaient de ne rien dire. En réponse, il lui adressa une fois encore cet air de mépris infiniment pire qu'un rictus ou qu'une menace, qui en disait plus sur ce qu'il pensait qu'un millier de mots n'aurait pu le faire. En tout cas, il n'avait jamais parlé à quiconque de cette horrible visite, et il ne le ferait jamais, pas même à la chose dans le sol. La chose dans le sol, le vieux démon, le vampire. Il l'attendait. Que pouvait-il faire d'autre ? Quand Dragozani arriva près de la tombe, peu avant le crépuscule, avec un autre cochonnet dans un sac en toile, il était éveillé, en colère, étendu là dans le sol et fulminait. Tandis que le bord du soleil touchait le bout du monde et que l'horizon lointain se changeait en sang, il fut le premier à parler.
« Dragozani, je sens ton odeur, Dragozani. Es-tu venu pour me tourmenter avec d'autres questions, d'autres exigences ? As-tu l'intention de voler mes secrets, Dragozani ? Petit à petit, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Et ensuite ? Alors que je repose ici dans cette terre froide, comment me récompenseras-tu ? Avec le sang d'un cochon. Ah, je vois que c'est le cas. Encore un cochonnet. Pour quelqu'un qui est si souvent baigné dans le sang de milliers d'hommes, de vierges et d'armées entières.
Du sang reste du sang, vieux dragon. Et je remarque que vous êtes plus vif ce soir grâce à celui que vous avez bu la nuit dernière.
Grâce à ce que j'ai bu ? Non. C'est la terre qui en a profité, Dragozani, et non ces vieux os.
Je ne vous crois pas.
Je m'en moque. Pas. Laisse-moi tranquille, tu me déshonores. Je n'ai rien pour toi et ne veux rien recevoir de toi. Je ne désire pas te parler. Va-t'en.
Dragozani arborait un large sourire. Je vous ai apporté un autre cochon, oui. Pour vous ou pour la terre. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose de rare. À moins que...
À moins que...
Cela fait peut-être trop longtemps. Peut-être que vous n'êtes plus capable de le faire. Peut-être est-ce impossible, même pour vous. Car, après tout, qu'êtes-vous sinon une chose morte ?
Ou une chose morte vivante, si vous insistez. J'insiste. Est-ce que tu te moques de moi, Dragozani ? Que m'apportes-tu cette nuit ? Que vas-tu me donner ? Que proposes-tu ?
Peut-être est-ce plus que ce que nous pouvons nous donner l'un l'autre.
Continue.
Dragozani lui dit ce qu'il avait en vue, exactement ce qu'il avait l'intention de partager.
Et tu voudrais passer un marché ? Que souhaites-tu me donner en échange de ce... partage ?
La connaissance. Je ne suis qu'un homme avec un savoir d'homme sur la question des femmes. Il s'interrompit, troublé, car l'être ancien gloussait. Lui mentir avait été une erreur.
Oh, un savoir d'homme sur la question des femmes. Un savoir complet, hein, Dragozani ?
Je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Mon travail, les études, l'occasion ne s'est jamais présentée.
Le temps, les études, l'occasion. Dragozani, tu n'es plus un enfant. J'avais 11 ans quand j'ai déchiré mon premier hymen, voilà 1000 ans. Après cela, vierge, garce, putain, quelle importance. Je les ai toutes eues de toutes les manières, et j'en voulais toujours plus. Et toi, tu n'y as pas goûté. Tu ne t'es pas trempé dans la sueur, les sécrétions et le doux sang chaud d'une femme. pas une seule fois. Et tu oses me traiter de choses mortes. »
L'être ancien éclata de rire d'une façon outrageante, obscène. Il trouvait cela si incroyablement ridicule. Son rire ne s'arrêtait plus, devenant un déluge, un raz-de-marée, un océan de rire qui rugissait dans la tête de Dragozani et menaçait de le noyer.
« Allez au diable. Allez au diable. Allez au diable, vous m'entendez ?»
L'être ancien demeura silencieux un moment, laissant une humeur aussi visqueuse qu'une limace de cauchemar dans l'esprit de Dragozani.
« Mais je suis déjà damné, mon fils. Oui. Et tu l'es également. »
Dragozani sortit vivement son couteau et tendit la main vers le cochonnet assommé.
« Attends. Ne sois pas si pressé, Dragozani. Je n'ai pas refusé. Mais dis-moi, puisqu'il semblerait qu'à l'instar d'un prêtre chétif, tu te sois abstenu durant toutes ces longues années, pourquoi te décider maintenant ?»
Dragozani réfléchit un moment et décida qu'il ferait aussi bien de lui dire la vérité. Le vieux démon dans le sol avait probablement vu clair en lui de toute façon.
« C'est la jeune femme. Elle me pousse à bout, se moque de moi, exhibe sa chair. Ah, je connais ce genre de fille.
Je crois également qu'elle pense que je préfère les hommes, ou du moins, elle s'est posé la question.
Comme les Turcs. C'est une insulte.
Je le pense aussi. Alors, acceptez-vous de le faire ?
Tu m'invites à entrer dans ton esprit, je ne me trompe pas. Cette nuit, quand cette femme viendra te rejoindre. S'agit-il bien d'une invitation formulée de ton plein gré ?
Dragozani se montra circonspect.
Juste pour cette fois. Ça ne sera pas en permanence.
Il te flatte de nouveau. J'ai ou aurai mon propre corps, Dragozani, qui est loin d'être aussi faible que le tien.
Pouvez-vous le faire ? Apprendrai-je quelque chose ?
Oui, je peux le faire, mon fils. As-tu oublié l'oisillon ? N'as-tu rien appris cette fois-là ? Qui a fait de toi un nécromancien, Dragozani ? Oui, et cette fois, tu apprendras énormément.
Alors je ne veux plus rien de vous. Pour le moment, en tout cas.
Il commença à s'éloigner de la tombe et descendre la colline, quittant ce lieu d'horreur séculaire quand...
Mais... Et le cochonnet ? Pour la terre, Dragozani. Pour la terre.
Ah oui, j'ai failli oublier. Le cochonnet, bien sûr.
Pour la terre.
Il revint sur ses pas, trancha la gorge de l'animal inerte et jeta son corps rose sur le sol. Puis sans se retourner, il partit silencieusement. Un peu plus bas sur la pente, contre le tronc d'un arbre où de grosses racines formaient une fourche, coincé là et incapable de rouler plus loin, il aperçut quelque chose d'étrange et se baissa pour le ramasser. C'était l'offrande de la nuit précédente, plus exactement ce qu'il en restait. Une boule formée d'un étroit entrelac de peau rose et d'eau broyée, toute desséchée, comme du carton froissé. Un scarabée allait et venait à la surface, cherchant en vain un morceau de nourriture. Dragozani laissa la boule tomber et rouler en contrebas. « Bien sûr, » pensa-t-il. Mais il gardait précautionneusement ses pensées pour lui, ici dans l'obscurité des pins. « Bien sûr, pour la terre. Uniquement pour la terre. »
Dragozani revint à la ferme des Kinkowski à temps pour dîner de nouveau avec la famille. Ce serait la dernière fois, même s'il ne pouvait pas encore le savoir. Au cours du repas, Ilse lui manifesta peu d'intérêt, pour ne pas dire aucun, ce qui était aussi bien car il se sentait tendu et nerveux. Il n'était pas sûr d'avoir fait le bon choix. Le vieux démon dans le sol n'était pas stupide, et il lui avait bien fait remarquer qu'il viendrait sur son invitation. Sa vieille répugnance grandissait en lui à mesure que le moment approchait. En même temps, son corps désirait ardemment être délivré de toutes ces années d'abstinence sexuelle. Pour la première fois depuis son arrivée, la nourriture lui sembla fade. Même la bière lui parut éventée et sans vigueur. Plus tard, dans sa chambre, il filait 100 pas, tout en fantasmant, de plus en plus furieux contre lui-même et nerveux tandis que les heures s'écoulaient. Pour la troisième ou quatrième fois depuis le dîner, il sortit la demi-douzaine d'ouvrages sur le vampirisme qu'il avait apporté avec lui. Lut les passages pertinents, rangea les ouvrages de nouveau dans une valise, à l'abri des regards. Selon la légende, on ne devait jamais accepter une invitation de la part d'un vampire, et tout aussi important, on ne devait jamais inviter un vampire à faire quoi que ce soit. Car la volonté consciente de la victime était primordiale. Cela signifiait en effet qu'elle décidait d'être une victime. La volonté était comme une barrière dans l'esprit de la victime que le vampire était peu désireux, voire incapable, de franchir sans l'aide de la victime elle-même. Ou peut-être était-elle une barrière psychologique que la victime devait surmonter avant de pouvoir devenir une victime. Le sujet devait d'abord croire. Dans le cas de Dragozani, c'était une question de conviction. Il savait que la chose dans le sol était là-bas. Aussi, cela n'intervenait pas dans le cas présent. Mais pour le moment, il ne savait pas quel pouvoir la créature pouvait exercer à l'extérieur, ni quelle pouvait en être l'étendue. De plus, et c'était peut-être là le plus important, maintenant qu'il l'avait invité à rentrer, il ne connaissait pas les limites de sa propre résistance. Il ne savait même pas s'il serait simplement capable de résister, ou s'il désirait résister. Eh bien, à l'évidence, il le saurait bientôt. L'heure entre minuit et 1h du matin passa avec une lenteur incroyable, et alors que le moment du rendez-vous amoureux approchait, Dragozani commençait à espérer qu'ils allaient changer d'avis et ne viendraient pas. Elle était peut-être profondément endormie en ce moment même, sans aucune intention de venir le retrouver ici. C'était peut-être simplement un jeu qu'elle jouait avec tous les autres de son père, pour se moquer d'eux et les faire se sentir idiots. En fait, elle pouvait très bien penser des hommes ce que Dragozani jusqu'à maintenant avait été amené à penser des femmes. Plus d'une demi-douzaine de fois, l'idée lui était venue qu'elle se moquait complètement de lui, et à chaque fois, il était allé jusqu'à la fenêtre dans l'intention de la fermer et de tirer les rideaux argentés par la lune. Mais chaque fois, il avait retenu son geste, quelque chose l'avait empêché d'aller jusqu'au bout. Grognant contre son incompétence dans ce domaine, il était retourné s'asseoir sur le lit dans l'obscurité de la chambre. L'heure convenue était désormais passée de 2 minutes. Se traitant de bouffon et se précipitant vers la fenêtre une fois encore, il était sur le point de la fermer violemment quand, en bas, dans la cour de la ferme éclairée par la lune, se déplaçait telle une ombre parmi les ombres, une silhouette, sombre et diaphane, avançait d'un pas léger, et la fenêtre de la chambre d'Ilse Ginkowski, légèrement entr'ouverte, semblait lui sourire avec son visage, ses yeux rusés. Elle venait. Seigneur, comme Dragozani avait besoin de l'être ancien, tout en ne voulant pas de lui. Avait-il réellement besoin de son aide? Mais oserait-il franchir le pas sans lui? Exaltation et terreur s'affrontaient à l'intérieur de Dragozani, et la seconde faillit bien l'emporter dès la première passe. Son angoisse était liée non seulement au but du rendez-vous lui-même, mais peut-être davantage au questionnement qui le torturait quant à sa capacité ou son incapacité à l'atteindre. Il était un homme maintenant, certes, mais dans les affaires de ce genre, il était toujours un petit garçon. La seule chair qu'il avait connue et dont il avait sondé les secrets était froide, morte et non consentante. Mais celle-ci était vivante, chaude et bien trop entreprenante. Le dégoût montant en lui le submergea comme un torrent. Il avait été un jeune garçon, juste un jeune garçon. Des images surgissaient dans sa tête en cortège bestial qu'il avait cru oublier et chasser. Le séjour, chez sa tante, ses cousines, la bête qu'il savait n'être qu'un homme en rut. Seigneur, cela avait été un véritable cauchemar. Tout cela allait-il recommencer? Et lui-même serait-il cette bête lubrique, ruisselante de bave? Impossible. C'était tout à fait impossible. Il entendit une marche craquer dans les entrailles de la maison d'hôte. Courut vers la fenêtre et regarda dehors, les yeux hagards vers la nuit. Un autre craquement, plus proche, le fit se précipiter vers le commutateur. Elle était là, sur le palier, et se dirigeait vers la porte de sa chambre. Une bourrasque de vent pénétra en gémissant par la fenêtre, fit onduler les rideaux et souffla en direction, ou plutôt à l'intérieur, du cœur de Dragozani. En un instant, toute peur et toute incertitude disparut. Il s'écarta du clair de lune pour se mettre dans l'ombre, et attendit. La porte s'ouvrit silencieusement et elle entra. Pris au piège dans un rayon de clair de lune, le vêtement gris semblable à un voile qu'elle portait était presque transparent. Elle referma la porte derrière elle et se dirigea vers le lit.
« Herr Dragozani ?»«
Je suis là. »«
Eh bien,
Je suis là, moi aussi.
Elle se tenait telle une statue sculptée dans du lait et le regardait sans innocence aucune. Il s'approcha, une silhouette sombre, et tendit les bras vers elle. À la lumière du jour, elle avait pensé que ses yeux manquaient d'éclat, qu'ils étaient un peu délavés, un bleu très doux, presque féminin, un bleu de vedette de cinéma. Mais maintenant... La nuit lui convenait tout à fait. Dans l'obscurité, ses yeux étaient féroces comme ceux d'un loup. Ce fut seulement lorsqu'il la porta vers le lit qu'elle sentit le premier doute s'insinuer dans son esprit. Sa force était colossale. Le matin suivant, Dragozali demanda son petit déjeuner de bonne heure et le prit dans sa chambre. Zack Kinkowski trouva qu'il avait l'air dans une forme éblouissante, presque surréaliste. L'air de la campagne devait vraiment lui réussir. Ils, par contre, n'avaient pas cette chance. Dragozali n'eut pas besoin de demander de ses nouvelles. Son père se chargea de lui en donner, en grommelant pour lui-même tandis qu'il servait son hôte un petit déjeuner copieux sur un plateau.
« Cette femme, ma Ilse, est une fille robuste, ou elle devrait l'être, mais depuis son opération... »«
Son opération ?»«
Oui. Il y a 6 ans, un cancer. Très mauvais pour une jeune fille. Cancer de l'utérus. Alors ils l'ont opérée. C'est bien, elle est en vie. Mais nous sommes dans une région agricole. » Un homme veut une épouse qui lui donnera des enfants, vous comprenez. Alors elle restera vieille fille, peut-être. Bien, elle partira et trouvera un travail à la ville. Les fils robustes sont moins importants là-bas. Parfois, elle ne se sent pas très bien, encore maintenant. Cela n'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, elle est très fatiguée. Alors elle va rester alitée un jour ou deux. Les rideaux sont tirés, sa chambre est plongée dans l'obscurité. Elle est emmitouflée dans ses couvertures, parcourue de frissons. Exactement comme quand elle était petite et qu'elle tombait malade. Elle dit qu'elle ne veut pas voir de docteur, mais... Je suis inquiet à son sujet.
Il ne faut pas... Je veux dire, vous ne devez pas vous inquiéter pour elle. C'est une adulte maintenant. Elle sait certainement ce qui est le mieux pour elle. Du repos, du calme, une chambre plongée dans l'obscurité. Voilà ce qu'il lui faut. C'est ce que je fais quand je suis un peu déprimé.
Bon, peut-être. Néanmoins, c'est préoccupant. Et il y a plein de choses à faire, en plus. Les Anglais arrivent aujourd'hui.
Oh. Je ferai peut-être leur connaissance ce soir.
Difficile. Je ne parle pas très bien anglais. Le peu que je sais, je l'ai appris des touristes.
Je parle un peu anglais. Je peux me débrouiller.
Ah. Bien, ils pourront au moins parler avec quelqu'un. En tout cas, ils apportent du bon argent. Et l'argent veut tout dire, non? Profitez de votre petit déjeuner, Herr Dragozani.
Recommençant à marmonner entre ses dents, Kinkowski quitta la chambre et descendit l'escalier. Plus tard, quand Dragozani sortit, Zack et Maura préparaient les chambres du bas pour leurs hôtes anglais. À midi, Dragozani prit sa voiture pour se rendre à Pitesti. Il ne savait pas très bien pourquoi, excepté qu'il se rappelait que la ville avait une bibliothèque, petite certes, mais très bien fournie. Qu'il aille ou non à la bibliothèque, ou ce qu'il y aurait fait, est-il une question purement rhétorique, car il n'eut pas l'occasion de s'y rendre. La police locale l'arrêta avant. Tout d'abord inquiet, imaginant toutes sortes de choses, il se calma dès qu'il apprit quel était le problème en réalité. Borovitz avait essayé de le localiser depuis qu'il avait quitté Moscou, et y était finalement parvenu. C'était étonnant que Dragozani n'ait pas été intercepté à la frontière quand il était arrivé en Roumanie. Les autorités locales avaient suivi sa trace jusqu'à Ionesti et de là jusqu'à la ferme de Kinkowski. En fait, c'était sa Volga qu'elles avaient suivie. Il n'y en avait pas beaucoup en Roumanie, surtout avec des plaques d'immatriculation de Moscou. Finalement, le policier qui commandait le véhicule de patrouille qu'il avait intercepté s'excusa pour le désagrément et remit à Dragozani un message. Il s'agissait simplement du numéro de téléphone de Borovitz à Moscou sur la ligne sécurisée. Dragozani accompagna immédiatement les policiers au poste de police et téléphona de là-bas. À l'autre bout du fil, Borovitz alla droit au but.
Boris, reviens aussi vite que possible.
Que se passe-t-il?
Un membre du personnel de l'ambassade américaine a eu un accident au cours d'une excursion. Un accident mortel. Il a bousillé sa voiture et a été éventré. Nous ne l'avons pas encore identifié. Pas officiellement, du moins. Mais nous devrons le faire bientôt. Alors les Américains exigeront de récupérer le corps. Je veux que tu l'examines avec tes... aptitudes particulières.
Oh.
Pourquoi ? Est-il si important ?
Depuis quelque temps, nous le soupçonnions, lui et un ou deux autres, de faire de l'espionnage. La CIA, probablement. S'il faisait partie d'un réseau, nous devons absolument le savoir. Alors rentre vite, d'accord ?
Je pars immédiatement.
De retour chez Ginkowski, Dragozani chargea rapidement ses affaires dans la voiture, paya ce qu'il devait et même un peu plus. Il remercia Zach et Maura et accepta de leur part des sandwichs, un thermos de café et une bouteille de vin du pays. Cependant, malgré tous les cadeaux d'adieu qu'il lui faisait, il était évident que Zach le considérait avec une certaine méfiance.
Vous m'aviez dit que vous étiez entrepreneur de pompes funèbres. Les policiers ont éclaté de rire quand je leur ai dit cela. Ils ont dit que vous étiez un homme important à Moscou. Un homme très important. C'est bien dommage qu'un homme comme vous se moque d'un compatriote, d'un homme sans importance.
Je suis désolé, mon ami, mais il est vrai que je suis un homme important et mon travail est très spécial. Quand je viens au pays, j'aime bien oublier complètement mon travail et me détendre. C'est pour ça que je me suis présenté comme un entrepreneur de pompes funèbres, veuillez me pardonner.
Cela sembla suffire. Zach Kinkowski abora un large sourire et ils se serrèrent la main. Puis Dragozani monta dans sa voiture. De derrière ses rideaux tirés, Ilse le regarda partir et poussa un soupir de soulagement. Il était peu probable qu'elle rencontre de nouveau un jour un homme comme lui. Et peut-être était-ce aussi bien, toutefois. Ses ecchymoses étaient encore bien visibles, mais elles s'estomperaient très vite. De toute façon, elle pouvait toujours dire qu'elle avait eu un étourdissement, qu'elle avait trébuché ou qu'elle était tombée. Les ecchymoses disparaîtraient, mais pas le souvenir de leur provenance. Elle soupira de nouveau et frissonna de délices.
Pause 1. Au dernier étage d'un hôtel réputé de Londres, dans une suite de bureaux privés, Alec Kyle était assis au bureau de son ex-patron et prenait frénétiquement des notes en sténo. Le fantôme qui se tenait en face de lui de l'autre côté de la table de travail avait parlé rapidement, d'une voix douce et parfaitement modulée, pendant plus de 2 heures et demie. Kyle avait des crampes dans le poignet. Sa tête lui faisait mal en raison des innombrables images bizarres qui s'y étaient implantées. Il était certain que le fantôme disait la vérité. Toute la vérité. Quant à savoir comment il, ou ça, connaissait toutes ces choses qu'il relatait avec une telle facilité, ou pourquoi il les relatait, qui pouvait dire quelle connaissance une créature de ce genre devait avoir ou non, exposée ou non. Mais Kyle était certain d'une chose à présent. Les informations qu'il avait prises en note étaient extrêmement importantes. Et il devait également s'estimer privilégié d'être l'intermédiaire par lequel elles étaient communiquées. Comme une douleur se propageait brusquement dans son avant-bras depuis le poignet, l'amenant à lâcher son crayon et à saisir sa main, prise d'un bref spasme, son mystérieux visiteur s'arrêta de parler. C'était une occasion aussi bonne qu'une autre, se dit Kyle, et il se sentit reconnaissant. Il se massa la main et le poignet pendant 1 minute, puis il prit un taille-crayon. En affûta la pointe de son crayon pour la 9e ou 10e fois au moins.
Pourquoi ne pas prendre un stylo ?
Il le fit sur un ton si parfaitement naturel et empreint d'une curiosité si sincère que Kyle se surprit à répondre sans même considérer qu'il parlait à une chose qui était encore plus immatérielle que de la fumée.
Je préfère les crayons, depuis toujours. Une manie, je suppose. En tout cas, ils n'ont pas besoin d'une recharge d'encre. Je suis désolé de m'être arrêté, mais j'ai l'impression d'avoir le poignet en compote. Nous avons encore beaucoup de travail.
Je tiendrai le coup.
Écoutez, allez vous chercher un autre café, fumez une cigarette. Je réalise à combien tout cela est étrange. Étrange pour moi aussi, mais si j'étais à votre place, mes nerfs feraient des bons. Je trouve que vous vous comportez remarquablement bien. Et nous vous entendons à merveille. Avant de venir ici, je pensais qu'il me faudrait faire plusieurs visites juste pour vous permettre de vous habituer à moi. Et comme vous pouvez le voir, nous progressons de façon satisfaisante.
Oui. Mais c'est le temps qui me préoccupe.
Il alluma une cigarette, inhala la fumée voluptueusement, en saturant ses poumons.
Vous comprenez, j'ai une réunion à 16h. Je dois essayer de convaincre des gens très importants de laisser le service en activité et de me permettre de remplacer Sir Keenan à sa tête. Alors vous comprenez, j'aimerais avoir terminé avant. Ne vous inquiétez pas. Considérez qu'ils en sont déjà convaincus.
Vraiment ?
Kyle se leva, alla dans le bureau principal et mit des pièces dans la machine à café. Cette fois, le fantôme le suivit et se tint derrière lui. Quand Kyle se retourna, il était là, et les meubles du bureau étaient visibles à travers lui. Il était moins consistant qu'un hologramme, qu'une bulle, qu'un ectoplasme. Kyle sursauta et renversa un peu de café, le contourna et retourna dans le bureau de Gormley.
Oui,
Je crois que nous serons à même de faire pencher vos supérieurs en votre faveur.
Nous ?
Nous verrons. De toute façon, je désire vous en dire un peu plus sur Harry Keough maintenant, avant de revenir à Dragozani. Désolé de passer ainsi du coq à l'âne, mais il est préférable que vous ayez un topo complet.
Comme vous voulez.
Vous êtes prêt ?
Oui. Excepté... Eh bien, c'est juste que je me demandais où vous vous situiez dans tout cela.
Moi ? Je suppose que j'aurais été déçu si vous n'aviez pas posé la question. Et puisque vous l'avez fait, si les choses se déroulent comme je l'espère, je serai votre futur patron.
Un fantôme ? Mon futur patron ?
Je pensais que nous en avions terminé avec ça. Je ne suis pas un fantôme et je ne l'ai jamais été. Même si, je le reconnais, j'ai bien failli en devenir un. Mais nous y reviendrons, vous verrez. Nous pouvons continuer maintenant.
Kyle acquiesça de nouveau.